La réforme du droit des contrats, telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 10 février 2016, est avant tout, nous l'avons vu, une réforme de consolidation, de clarification. On prend des solutions jurisprudentielles et on va en faire des articles du Code civil, des solutions que l'on veut voir consacrées. On prend aussi des solutions issues de droits spéciaux et on va les placer dans le droit commun des contrats. Mais cette réforme est aussi, à certains égards, une réforme de rupture. Réforme de rupture parce qu'on a introduit dans notre droit des contrats des mécanismes nouveaux, parfois pour atteindre un objectif de justice contractuelle, des mécanismes qui n'existaient pas ou qui existaient de manière différente, prévues par la jurisprudence. Donc nous allons voir ces principales innovations. Alors, première innovation que l'on peut évoquer, l'obligation générale d'information de l'article 1112-1 du Code civil. Est-ce qu'elle n'existait pas déjà? Est-ce qu'on n'avait pas déjà l'obligation d'informer l'autre partie au contrat lorsque l'on a soi-même des informations qui peuvent être déterminantes du consentement de l'autre partie? Il y avait, et il y a encore, la notion de réticence de l'osive. Si je garde intentionnellement de telles informations, eh bien je vais tromper l'autre partie, et on peut dire que j'ai une obligation de l'informer, mais voilà, l'article 1112-1 introduit une obligation générale d'information, et on ne me demande pas que j'ai l'intention de tromper l'autre partie pour qu'on puisse ensuite me reprocher de ne pas avoir donné ces informations. Si j'ai des informations et que par désinvolture je ne les communique pas à l'autre partie, eh bien je pourrais engager ma responsabilité devoir payer des dommages-intérêts, indemniser le préjudice que j'ai ainsi causé à l'autre partie. Donc voilà une première innovation. Nous avons d'autres innovations. Le mécanisme des clauses abusives, par exemple. C'est l'article 1171 du Code civil. On nous dit que toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Mais attention, précision importante, ce ne sont que les contrats d'adhésion qui sont visés par cette mesure. Dans le projet d'ordonnance qui avait été soumis à consultation publique, il n'y avait pas cette précision. C'était un mécanisme général dans tous les contrats. On nous disait que la clause qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties était réputée non écrite. Donc là, si on réduit au seul contrat d'adhésion, on comprend qu'on réduit beaucoup le champ d'application du dispositif. Et cela va moins émouvoir la pratique, parce que sinon le risque était que quelqu'un allait conclure un contrat, mal négocier intentionnellement, laisser des clauses très déséquilibrées en sa défaveur, être placé dans le contrat pour ensuite aller devant le juge, contester les clauses et demander que ces clauses soient retirées du contrat. Voilà, donc ce mécanisme a été restreint aux contrats d'adhésion, donc les contrats qui ne sont pas négociés, les contrats dans lesquels une partie propose l'ensemble du contrat et l'autre n'a que la possibilité de dire oui ou non. Donc voilà déjà plusieurs innovations. Autre innovation que l'on doit évoquer, la consécration de la violence économique, mais c'était déjà une notion qui était retenue par la jurisprudence, on aura l'occasion d'y revenir. Innovation majeure, bien sûr, la théorie de l'imprévision. On va, par ce mécanisme, vous le savez, toucher au principe d'intangibilité du contrat. Si le contrat devient excessivement onéreux à exécuter du fait d'une modification des circonstances économiques qui n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat, et si on n'a pas renoncé à ce dispositif, alors on va pouvoir demander à l'autre partie de renégocier, et si la renégociation n'aboutit pas, on va pouvoir aller devant le juge pour que le juge mette fin ou modifie le contrat. Donc ça, c'est une modification majeure à laquelle seront consacrées plusieurs vidéos. Donc c'est un point qui est très important. Autre changement important et qui a beaucoup affecté certains universitaires qui étaient attachés à cette notion, disparition de la cause, disparition de la notion de cause, mais nous avons l'occasion de le voir dans une vidéo qui est consacrée à cette question, nous aurons l'occasion de le voir, on fait disparaître la notion, mais on ne fait pas disparaître les solutions qui étaient fondées sur la notion de cause. Autre modification importante également, nous avons une remise en cause de la jurisprudence Consort Cruz, cet arrêt de la 3e chambre civile du 15 décembre 1993, qui refusait de donner aux bénéficiaires d'une promesse unilatérale le droit à l'exécution forcée en nature de la promesse, donc le promettant se rétracter avant que le bénéficiaire ait levé l'option. Et le bénéficiaire n'avait droit qu'à des dommages et intérêts, eh bien, cette solution va être remise en cause à l'article 1124 nouveau du Code civil. Donc, on peut le dire, c'est une réforme qui est non seulement une réforme de consolidation, de clarification, mais également une réforme de rupture. Merci.